Eh bien ça y est, c'est fait, il l'a refait. Donald Trump retournera le 20 janvier prochain à la Maison Blanche. Nous sommes juste à côté. Elle est en train de disparaître sous les installations qui se préparent déjà pour cette investiture de Donald Trump. On vous en parle depuis des mois et en particulier depuis que la campagne a été bouleversée au mois de juillet avec la première tentative d'assassinat contre Donald Trump et le retrait de Joe Biden et l'arrivée en campagne de Kamala Harris. Depuis, il s'est passé un peu plus de 100 jours à fond pour aboutir à cette vague rouge. On va parler de cette folle soirée électorale avec Sébastien Paour de France Info. Bienvenue Sébastien.
Bonjour à tous.
Jordan Davis de la RTS est là aussi. Hello Jordan.
Salut Guillaume.
Sonia Dridi de la RTBF est à New York, mais miracle de la technologie, elle nous rejoindra. Et Frédéric Arnoul de Radio-Canada est là aussi. Salut Fred.
Salut.
Je suis Guillaume Nodin de RFI et c'est Washington DC, saison 2, épisode 13.
Democracy is on the ballot. Your freedom is on the ballot.
Washington DC.
So now we have a new victim to defeat, Lion Kamala Harris.
I know Donald Trump's type.
Le podcast des médias francophones publics.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
We'll stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
And when we fight, we win.
Washington DC.
Thank you very much. Wow. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond.
C'était dans la nuit de mardi à mercredi à West Palm Beach, en Floride. Fred, t'es toujours dans les bons coups, tu y étais, raconte-nous.
Ah, comment je pourrais dire ça? En fait, ça faisait 2-3 semaines que je les suivais vraiment sur le terrain. Et ils me disaient toujours, on va gagner, vous allez voir, ça va être un landslide, là, ça va être un raz-de-marée rouge. Et donc, ce soir-là, bah, effectivement, là, on voyait les jeunes qui arrivaient de plus en plus, vraiment très, très nombreux, les casquettes rouges, les petits costumes bleus avec la cravate rouge et les pantalons un peu serrés, les mocassins, ils étaient là. Donc, ces fameux jeunes, ces adeptes de Donald Trump. Et évidemment, au fur et à mesure de la soirée, ils voyaient un peu tous les indicateurs vraiment virés au rouge. C'était très bon pour eux. Et puis on attendait. Et puis bon, ben quand est sortie cette confirmation de sa victoire, là, c'était vraiment c'était la folie dans les rues. Et puis c'était la folie évidemment dans l'attente à l'intérieur, là, dans ce fameux centre des congrès de West Palm Beach, qui est le fief de Donald Trump. Quand il est arrivé, là, écoutez, c'était du délire. C'était comme si le libérateur arrivait en fait et allait prendre enfin les rênes de ce pays en main. Il menait à une destinée qui ne pensait jamais être possible. En tout cas, c'était vraiment du Trumpisme à l'état pur et les gens étaient contents, ils se congratulaient. Enfin bref, c'était épique, je vous dirais.
Sébastien, quand Donald Trump est arrivé entouré de sa famille et de ses proches, c'était un véritable triomphe romain. Tu étais à Washington DC, mais tu as regardé ça.
Oui, c'était la famille Trump qui venait en majesté. Donald Trump, évidemment, en tête. Melania à ses côtés, ses fils, sa belle-fille Lara, qui est maintenant à la tête du parti républicain. Et puis les soutiens de Trump qui étaient là. On a vu certains membres de l'équipe. Il y avait au premier rang dans la salle Doug Burgum, Vivek Ramaswamy, les anciens adversaires de la primaire, et autant de drapeaux américains que possible derrière. C'était l'accomplissement de la galaxie Trump qui, depuis maintenant 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine, a pris la main sur le parti républicain.
Jordan, l'américain de service, tu en as pensé quoi?
comme le dit Seb, c'est vraiment la galaxie MAGA Trump dans son concentré pur. Il y avait Mike Johnson qui était là, donc le speaker, le président de la Chambre des représentants, qui doit son poste à Donald Trump. Donc là, on voit vraiment ce qu'est le Parti républicain aujourd'hui. C'est vrai, on se disait, et on a l'habitude de se dire, oui, Donald Trump représente une rupture par rapport au passé avec le parti, comme si il y avait une sorte de parenthèse. En fait, non, aujourd'hui, le Parti républicain, c'est Donald Trump. Et en fait, si vous avez 30 ans aujourd'hui, à chaque fois que vous avez voté, vous avez eu Donald Trump sur le bulletin de vote. Donc, c'est le Parti républicain, c'est lui.
Et toujours cette fascination, toujours dans l'assistance, là, pour les sports de combat. Il y avait eu Hulk Hogan à la convention et au Madison Square Garden. Là, il y a encore eu Dana White, c'est le patron de la ligue de combat UFC, Universal Fight, qui a même été invité à dire quelques mots. C'est quoi, Frédéric, ce truc avec les lutteurs cogneurs là? Il y a un message viriliste, c'est quoi le truc là?
Je sais pas, c'est peut-être le coup de la corde à linge ou un aveuglement, ou je ne sais pas, comme tous ces termes justement de la lutte et du catch. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a, vraiment une image de machisme là qui revient encore une fois là. C'était un peu le résultat d'une fin de campagne assez genrée dans le fond. On l'a vu là, c'était une femme contre un homme et un homme qui a un peu exploité tous les clichés en fait du masculinisme. Et donc c'est assez étonnant de voir ça. C'est très cliché, mais en même temps, ça représente une partie de l'électorat de ceux qui ont voté pour Trump. Ceci dit, il n'y a pas juste des Trumpistes qui ont voté pour Trump. Et c'est peut-être ça aussi une des leçons de cette élection. C'est que, je veux dire, Trump a réussi à aller chercher bien du monde dans toutes les clientèles qu'il fallait aller chercher, que ce soit les Latinos, les Afro-Américains et même les jeunes. Et là, ben, il y a eu vraiment une redéfinition, en fait, des gens qui en avaient un peu ras-le-bol de l'ère Biden-Harris et qui se sont dit, de toute façon, pourquoi pas lui? De toute façon, ça avait l'air de bien marcher en 2016 et 2020. Donc, pourquoi pas réessayer encore une fois? J'aurais peut-être un peu plus d'argent dans mes poches, dans le fond.
Jordan, tu es un peu plus sceptique sur le fait qu'il est allé chercher des voix chez les Noirs, chez les Afro-Américains.
Il est allé chercher des voix chez les Noirs. Je dis que je ne suis pas sûr que ces sorts chez les Noirs soient sensiblement améliorés. Et il faut aussi... Il faut comprendre, là, quand on fait les analyses à chaud, même si on est à quelques jours après... Les analyses, surtout basées sur les sondages de sortie des urnes qui relèvent de l'après l'élection, souvent on a des meilleures analyses bien après. Donc il faut prendre ces analyses-là souvent sur les mouvements démographiques avec des pincettes. C'est souvent avec 2 ans de retard qu'on a les meilleures analyses qui font foi chez les politologues et tout ça. Donc rendez-vous en 2026 pour avoir vraiment l'analyse circonstanciée.
Non, mais néanmoins, on a quand même des premières données qui confirment que Kamala Harris a fait moins bien que Biden chez les Noirs, chez les Latinos, chez les jeunes. On aura les chiffres définitifs dans quelques jours. Évidemment, tu as raison, il faudra se fonder sur ces analyses factuelles et non pas de sortie d'urne. Néanmoins, on pensait qu'elle allait faire aussi bien que Biden en 2020 pour pouvoir s'imposer sur Trump comme Biden en 2020, et ça n'est pas le cas.
Quel est le moment, parce qu'il y a un moment où tous vous vous êtes dit, bon, ben le vent est en train de tourner, le vent est en train de souffler pour Donald Trump. Il y avait de la confiance, j'imagine, Fred, à West Palm Beach. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, bon, là, c'est plié?
Oh ben oui, je veux dire, on regardait en fait cette carte qui se remplissait quand on regardait évidemment sur les différents réseaux de télévision. Tout le monde était un peu branché sur son téléphone portable là dans les rues de West Palm Beach et on regardait ça. On s'est dit ouais, bon là ça commence à être un petit peu difficile là pour Kamala Harris là. Quand on a vu que la Caroline du Nord, qui au départ était devenue très concurrentielle dans cette course, parce que bon, encore une fois, c'est des sondages, hein, il faut beaucoup de gens se sont basés là-dessus pour se dire bon ben ça va être serré. Et finalement, quand on a annoncé que ça devenait rouge, on s'est dit bon ben finalement il y a quand même des acquis assez sérieux pour Donald Trump. Et au fur et à mesure de la soirée, ben, on a senti cette espèce de soulagement. En fait, chez les Trumpistes, tous ceux qui étaient là avec leurs casquettes rouges, ils disaient, bon, ben, ça y est, enfin, on vous l'avait dit qu'on allait gagner. On vous l'avait dit, on vous l'avait dit, on vous l'avait dit. Et finalement, ça s'est confirmé un peu plus tard en soirée. Donc, c'était quasiment inéluctable. Et ça représentait un peu aussi cette espèce de dichotomie entre des républicains qui étaient très sûrs d'eux et des démocrates qui pensaient de plus en plus, ouais, ce sera pas facile, mais on va essayer, on va espérer. Sauf que l'espoir, c'est bien beau, mais il reste que les démocrates sont moins sortis que prévu. Et voici le résultat. Ce sont les républicains qui, eux, sont sortis et ont réussi à embarquer dans leur giron, en fait, d'autres personnes qui n'avaient pas forcément des casquettes rouges.
Jordan.
Ce qui frappé, c'est vraiment, on a voyé au fur et à mesure de la soirée une tendance qui se confirmait, c'est que quasiment partout, il y avait vraiment un shift, un déplacement de l'électorat des marges en faveur de Donald Trump. Et vraiment, c'est ça ce qui est fascinant, c'est que c'est quasiment sauf exception. Et les seules exceptions, c'est en fait là où il y avait vraiment un travail très poussé de la part des démocrates, notamment autour de la banlieue d'Atlanta, par exemple. Mais aussi, on voit que le travail, il y avait un travail de terrain qui était beaucoup plus performant chez Kamala Harris que pour Donald Trump, en tout cas mieux financé. Et on voit que ça a quand même réduit les marges. Hein. Kamala Harris perdait de moins dans certains swing states qu'ailleurs, mais ça n'a pas suffi. Il y a vraiment une tendance lourde, comme une sorte de marée électorale. Kamala Harris nageait à contre-courant ici, et je pense qu'on a cherché beaucoup de petites explications par-ci, par-là. Je pense qu'il y a vraiment une explication très globale avec le sentiment dans le pays, et Kamala Harris a eu du mal à contrer ça.
On va en reparler. Moi, je trouve quand même qu'il y a eu un moment où il y a la Virginie qui était devenue, au moment de la soirée,
ouais,
un swing state quasiment. Mmh. On se demandait si les Républicains n'allaient pas la prendre.
Ça n'a pas duré longtemps.
C'est juste de l'autre côté du Potomac, là. Hein. C'est en fait, la Virginie est devenue assez lourdement démocrate avec les banlieues de Washington, à Arlington, dans le nord de la Virginie. Mais il y a eu un moment où c'était un petit peu compliqué, Sébastien.
Oui, on a cru que non seulement Trump allait faire un grand chelem dans les 7 états clés, mais que potentiellement il en ferait swinguer d'autres. Bon, il s'est contenté des 7, ça lui a largement suffi pour s'imposer. Pour revenir sur ce que disaient Frédéric et Jordan, moi je suis assez d'accord avec l'analyse de David Axelrod, qui est l'ancien conseiller d'Obama, le stratège d'Obama, qui dit en fait le problème des démocrates, il le connaît bien ce parti, c'est qu'il est, c'est un parti de blancs, éduqués et qui vivent pour l'essentiel en ville et qui n'est pas ou pas assez en contact. Tu parlais de la campagne de terrain qu'a mené le camp Trump. Jordan, tu le disais aussi, Fred. Ce parti a fait campagne, évidemment, sur le terrain. Mais peut-être qu'il est un peu trop hors sol, trop à l'écart de la réalité de l'ensemble de l'Amérique rurale, qui elle, n'est pas cette Amérique éduquée, de ville. Et il s'est trompé. Manifestement, son diagnostic n'était pas le bon.
Sonia, on a réussi à te voler 5 minutes dans ton emploi du temps surchargé. Tu es à New York actuellement, mais tu nous rejoins. Toi, tu étais à Howard University, c'est l'ancienne université de Kamala Harris. C'est là qu'elle a organisé sa soirée électorale. C'était festif et puis ça s'est terminé en queue de poisson. Raconte-nous.
Ouais, on est vraiment passé en quelques heures de l'euphorie aux larmes. Ça a commencé dans une ambiance électrique avec des chorégraphies sur scène, des chansons. Les gens, hein, dans le public, les membres de la campagne, les partisans, les étudiants, parce qu'il y avait aussi des étudiants qui étaient invités, étaient vraiment hyper remontés à bloc et puis franchement plutôt optimistes. Et j'ai par exemple rencontré une étudiante qui me disait « Je suis tellement pressée de raconter cette soirée historique à mes enfants, mes petits-enfants. » Et puis en fait, au fur et à mesure des dépouillements. Alors on a commencé à voir tous les regards rivés vers l'écran géant où on retransmettait CNN en direct. Et vraiment, après, il y avait des milliers de personnes, mais il y avait quasiment un silence de plomb. Il y avait d'un coup plus de musique, plus de chorégraphie. Et c'est devenu, on a vu les visages se fermer, l'anxiété monter, jusqu'au moment où vraiment en fin de soirée, alors Kamala Harris devait venir, hein, on nous avait même demandé de libérer les places qui étaient réservées aux journalistes du pool qui la suit en permanence. Ils étaient sur le point d'arriver, la sécurité commençait justement à faire place pour l'arrivée de Kamala Harris et des journalistes qui la suivaient. Et puis voilà, d'un coup, ils ont décidé d'annuler, enfin la candidate et ses proches conseillers. Et donc, on a eu l'un des membres de la campagne qui est venu et annoncé qu'elle n'allait pas parler ce soir. Alors là, on a commencé vraiment à voir la tension monter. À ce moment-là, il y en avait qui avaient encore de l'espoir parce qu'on n'avait pas les résultats des États du Blue Wall, donc ces fameux États sur lesquels comptaient les démocrates pour le chemin vers la victoire, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Donc les partisans sont partis vraiment anxieux, mais avec certains avaient encore un peu d'espoir. Et puis ensuite, on connaît la suite. Elle est venue parler le lendemain, en fin d'après-midi. Et pour terminer sur ce point, c'était assez étonnant qu'elle vienne parler aussi tardivement. En fait, beaucoup s'attendaient à ce qu'elle parle plus tôt dans la matinée. Il y a une source proche de la campagne qui m'a dit que vraiment, elle et ses équipes étaient encore vraiment sonnées et que du coup, elle était pas prête tout simplement à parler. Il lui a fallu du temps. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce que vous avez suivi aussi ensuite, le discours de Kamala Harris qui est enfin arrivé à Howard en fin d'après-midi le lendemain.
Ouais, on va en reparler. Merci Sonia d'avoir pris 5 minutes, t'as un train à prendre. Merci d'avoir
merci
été
Sonia.
Avec nous.
Oui, à très vite à Washington. Salut.
Qu'est-ce qui n'a pas pris dans la campagne de Kamala Harris ? Parce que en dehors du fait qu'il y a une tendance lourde, il y a quand même peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, Frédéric.
Bah en fait, il y en a beaucoup. Personnellement, moi, ça fait 3 ans et demi que je suis à Washington et j'ai souvent suivi Kamala Harris. Je l'écoutais, je la regardais. Et j'ai toujours trouvé que ce n'était pas une politicienne d'instinct. C'est une excellente procureure, mais elle ne l'a pas cet instinct de politicienne. Et je trouve que beaucoup de gens espéraient qu'en 90, 100 jours, ça allait s'améliorer. En fait, non. Ça ne s'apprend pas où on l'a ou on l'a pas. Et quand on fait face à quelqu'un comme Donald Trump, il faut avoir une personnalité qui détonne, qui est capable de se battre. Et je trouve que là-dessus, c'était souvent trop scripté, c'était souvent c'était trop gentil parfois. Et à la fin, dans le fond, on s'est retrouvé avec une personne qui gérait une campagne de joie, mais qui passait beaucoup de temps à critiquer Donald Trump et à devenir un peu, à essayer de faire croire que cette élection était un référendum anti-Trump. Ça, c'était à un moment donné, ça marche, mais on n'en sait pas plus sur ce qu'elle voulait, et on demandait aux gens dans la rue, mais qu'est-ce que vous pensez de son programme ? Ben, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et puis enfin, je pense qu'il y a l'éléphant dans la pièce, on pourra en discuter beaucoup plus tard, mais je veux dire, les démocrates ont quand même choisi non seulement une femme, mais en plus une femme de couleur. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que les États-Unis, en tout cas, on entendait beaucoup ça, c'est ouais, mais l'image de force, là, c'est un homme. Là, on n'est pas sûr que c'était elle qui représentait ça. C'est terrible d'entendre et de dire ça en 2024, mais il reste que c'est quelque chose qui percolait dans l'opinion publique tout au long de cette campagne.
Sébastien, je me souviens très bien quand on a enregistré un épisode de ce balado, tu avais dit à un moment, son programme, ses propositions économiques, c'est pas très épais. Et en fait, elle ne les a pas épaissies tout au long de la campagne. Elle n'a jamais développé ça.
Elle ne les a pas développées et ça n'a pas imprimé. Elle est restée sur une ligne de crête pour ne fâcher personne. Elle a dit qu'elle allait être un petit peu dans la continuité de Biden, mais en même temps que ça ne serait pas une présidence de la continuation. C'était un peu difficile d'assumer le bilan de ce ticket Biden-Harris qui a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, et en même temps d'essayer de s'en distinguer. Tout cela, on l'a dit, en 90, 107 jours exactement de campagne, ça a été compliqué. Et puis l'autre paramètre, à mon avis aussi, c'est que c'est la fin des grands réseaux de médias mainstream. C'est bien beau d'aller faire 60 Minutes, comme elle l'a fait, l'émission phare du dimanche, qui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas combien elle a. Chez Trump, on est allé parler aux podcasteurs, à ses influenceurs, à ces réseaux-là, c'est le règne, c'est l'avènement du podcast. Est-ce que Kamala Harris s'est adressée aux bonnes personnes ? En tout cas, Trump, lui, est allé taper à son électorat, il s'est adressé à sa base et il a convaincu peut-être ces jeunes électeurs qui sont nés avec le Trumpisme il y a 10 ans et qui maintenant vont vivre avec ça.
Jordan, elle a quand même parlé à des podcasteurs.
Elle a quand même parlé. Elle n'a pas parlé à ce podcast-ci, malheureusement. Peut-être que ça aurait changé la donne.
C'est vrai, elle aurait dû venir.
Mais elle a quand même dit.
Elle a parlé à Color Daddy.
Charlemagne the God, pour parler aux électeurs noirs. Non, mais je pense qu'on voit que les médias généralistes n'ont plus le même poids et en ont encore moins. Je pense qu'à l'avenir, surtout dans l'administration de Trump qui conspue les médias. Cela dit, tout le monde fait le post-mortem de la campagne de Kamala Harris. Je pense qu'on peut dire que voilà, elle n'a pas été servie par déjà la décision de Joe Biden de se retirer à une heure aussi tardive, évidemment. N'a pas permis à Kamala Harris de faire beaucoup de choses à la fois. Elle devait rassembler, déjà, redonner des couleurs à la base démocrate, qui était complètement morose et démotivée par la campagne de Joe Biden jusqu'à cet été. Elle devait se présenter aux Américains. Elle devait faire un programme. En tout cas, le programme de Donald Trump n'est pas très, très détaillé ni très réaliste des fois non plus. Mais voilà, tout le monde disait qu'Hillary Clinton, en 2016, tout le monde disait « Ah non, mais son programme était trop détaillé, ça ne sert à rien. » Et tout, là, tout le monde dit non, Kamala Harris n'avait pas un programme assez fouillé. La question, c'est que finalement, il y a une règle imparable en politique. Et je pense que, quelque part, les médias, nous y compris, je pense qu'on est passé peut-être à côté de l'essentiel dans cette campagne. C'est que quand dans un pays, la population pense que le pays va dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, quand les citoyens sont convaincus que l'économie ne va pas bien, un président sortant perd. Kamala Harris n'était pas la présidente sortante et en même temps, elle était la vice-présidente. Et je pense que là, les gens, quand les gens voulaient du changement, ce qui est clair pour toutes sortes de raisons, mais en tout cas là, et je ne sais pas si Kamala Harris aurait pu changer quoi que ce soit dans ce cas de figure.
Et Trump passait son temps à poser la question, est-ce que vous vivez mieux depuis 4 ans? Et la réponse?
La réponse de Trump, c'est on va rembobiner le pays en 2019 quand tout allait bien.
Avant le Covid, avant l'inflation.
Il y a des études universitaires là-dessus. Quand il y a des élections, il y a des études là-dessus. Les gens se souviennent de ce qui s'est passé dans les 18 mois précédents, pas plus. Et c'était bien joué de la part de Donald Trump d'essayer de leur faire se rappeler d'une espèce d'âge d'or, d'époque rêvée, Jordan.
Absolument. Et je ne sais pas, franchement, ce que Kamala Harris aurait pu faire dans une si courte campagne pour changer ces tendances qui sont lourdes. Et on se demande, on se souvient, par exemple, en 2020, quand Donald Trump perd l'élection. Les Républicains ne se sont pas posé plus de questions que ça par rapport au fait que, est-ce qu'il fallait changer le message, est-ce qu'il fallait changer l'approche, est-ce qu'il fallait changer quelque chose. Il y a parfois des choses cycliques qui arrivent et aussi des phénomènes, des espèces de marées comme ça, un va-et-vient de la vie politique, et les Républicains ont surfé sur cette vague. Ils n'ont rien changé, ils ont pris les mêmes, ils ont recommencé et là ils ont gagné en 2024.
C'est aussi parce que dans le fond les Républicains et la droite en général sont toujours très efficaces en termes de marketing politique. Ils n'ont pas une liste de 30 000 différents programmes qu'ils vont proposer. Et dans ce cas-ci, ça s'est articulé autour de deux thèmes. C'était évidemment l'inflation, le coût de la vie et la fameuse frontière qui fait peur à tout le monde de voir tous ces migrants qui arrivent un peu partout. Évidemment, c'est le mythe de la caravane, si vous voulez. Mais il reste que ces deux choses qui ont marqué l'inconscient collectif. Et plus vous le répétez, plus ça fait son chemin. Et à un moment donné, les gens se sont dit, c'est vrai que finalement, j'ai peut-être un meilleur salaire qu'il y a 4 ans grâce à Biden et tout ça. L'économie va bien, mais comment ça se fait que ça coûte si cher? Donc, dans le fond, encore une fois, c'est le prix des œufs et de l'essence qui ont fait la différence dans cette affaire. Et on revient toujours à ce qu'avait dit James Carville dans la fameuse campagne de Bill Clinton dans les années 90. « It's the economy, stupid ». Et ça ressemble un peu à ça, dans le fond, cette campagne.
Moi, j'étais à son discours qu'elle a prononcé le lendemain de la soirée à laquelle a participé Sonia. Celui où elle a concédé sa défaite, il y avait des larmes dans le public. Et puis, elle a essayé de faire un petit peu de philosophie, Kamala Harris. Écoutez-la.
There's an adage an historian once called a law of history.
Il y a un adage qu'un historien a appelé une loi de l'histoire à travers toutes les sociétés au fil du temps.
The adage is,
cet adage est
only when it is dark enough,
c'est seulement quand il fait suffisamment noir que l'on peut voir les étoiles.
I know many people feel like we are entering a dark time.
Je sais que beaucoup de gens pensent qu'on rentre dans une période bien sombre. Mais j'espère, pour notre bien à tous, que ce n'est pas le cas.
But here's the thing, America, if it is,
mais si c'est le cas,
let us fill the sky,
alors remplissons le ciel avec la lumière de millions et de millions d'étoiles brillantes.
The light. The light of optimism,
la lumière de l'optimisme,
of faith,
de la confiance,
of
de la vérité et du service.
And service.
C'est le moment où elle dit il faut qu'il fasse nuit noire pour qu'on voit les étoiles. Voilà. Oui, donc maintenant, est-ce qu'on entre dans la nuit? Est-ce que les États-Unis entrent dans la nuit? Et surtout, le programme, la transition, on peut s'attendre à quoi d'ici au 20 janvier, le jour de l'investiture, Jordan?
Bon, normalement, Joe Biden a annoncé au moment où on enregistre, il y a quelques heures, Joe Biden a annoncé qu'il va recevoir Donald Trump à la Maison-Blanche, qu'il va tout faire pour mettre en œuvre une transition pacifique, ce à quoi Joe Biden n'a pas eu droit il y a 4 ans. Et voilà, il va tout préparer pour que tout se passe bien. Est-ce que la campagne de Trump sera, ou l'équipe de transition de Donald Trump sera suffisamment préparée pour préparer cette transition? Normalement, on doit déjà remettre des papiers pour avoir accès aux documents secrets, pour avoir une sorte de security clearance, comme on appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Des autorisations de sécurité.
Ils auraient déjà dû rendre ça même avant l'élection, parce qu'il y a toute une sorte de procédure maintenant assez bien définie, déjà pour préparer en amont de l'élection de celui qui pourrait éventuellement gagner. Comme ça, on gagne du temps. Ils ont tout, et on a appris à la Maison-Blanche aujourd'hui qu'ils n'ont toujours pas rendu ces papiers. Donc ça, déjà, en termes de stabilité, ce n'est pas bon signe.
On lit des tas de choses sur les guéguerres au sein même de la campagne Trump. Il y a notamment dans un article de The Atlantic, qui est presque aussi bon que ceux de Frédéric Arnould sur le site de Radio-Canada, les gens ont l'air de se bouffer un petit peu le nez, Frédéric, ça va ressembler à quoi?
Ben, honnêtement, j'ai pas lu l'article non plus, mais en fait, cette espèce de, il y a des petites guéguerres à l'intérieur, évidemment, comme d'habitude en général, quand on veut essayer d'accéder au pouvoir et avoir un poste à la table. Mais il reste que ça va être un peu, puis on peut déjà le dire maintenant, je pense que ça va être une parade de sièges éjectables à un moment donné, parce que si le passé est garant de l'avenir, je pense pas que Donald Trump va changer. Et ben donc, il va nommer des gens qui pensent qu'ils sont vraiment les meilleurs pour occuper ces postes-là. Mais si jamais ça marche pas ou qu'il y a des critiques, ben à ce moment-là, ils sont les premiers à partir. Mais je veux dire, on a vu dans sa campagne des gens qui se sont joints à Donald Trump. Bon, évidemment, il y avait RFK Jr., Junior Kennedy, là, qui lui... bon,
oui, il va s'occuper de la sécurité des vaccins, apparemment.
Ben, comme ils disent ici, what could possibly go wrong, mais qu'est-ce que ça pourrait... À quoi ça va ressembler, tout ça? Parce que, dans le fond, c'est un homme qui, évidemment, a été très controversé au niveau de ça, de ce qu'il pensait de la sécurité des vaccins. Là, il voudrait bon, changer un peu la sécurité dans l'alimentation aussi. Bon, ok, d'accord. Puis l'autre personnage aussi, qui est un peu fascinant, c'est l'autre milliardaire, c'est Elon Musk. Monsieur Trump avait dit qu'il allait le nommer à un poste de la gestion de l'efficacité ou l'efficience gouvernementale. Alors évidemment, c'est pas pour rien que monsieur Musk a décidé de se joindre à ce mouvement, parce qu'il sait très bien que, bon, avec toutes les réglementations qui étaient sur la table des démocrates au niveau des gros contrats là, gouvernementaux, des choses comme ça, il s'est dit, bon ben là, si je vais avec Trump, ici il gagne, j'aurai quasiment une carte blanche. Il y a des gros projets qui s'en viennent avec la NASA, et monsieur Musk avec SpaceX, vous savez qu'il a, il orgne vers tout ça. Alors, ça promet d'être intéressant de voir cette longue liste de personnages qui va rentrer dans ce fameux cabinet de Trump.
Oui, beaucoup de ces entreprises, et notamment SpaceX, dépendent beaucoup de la commande publique, et donc il y a un conflit d'intérêts qui est absolument évident, Jordan.
Et ça, et sans parler du fait que Donald Trump, il faut se rappeler déjà, il y a 4 ans, il y a 8 ans, il ne s'est pas séparé de la gestion de ses affaires. Enfin, il n'y avait pas vraiment un parfois étanche non plus. Donc voilà, cette immixtion de ses intérêts personnels, ceux de l'État, ceux de la collectivité, c'est sa famille, qui ses membres de sa famille qui sont sortis en s'enrichissant. Enfin, qui avait des portefeuilles. Enfin, Jared Kushner, son beau-fils, qui avait un travail diplomatique. Pas, il n'était pas secrétaire d'État, mais une sorte de portefeuille un peu... pas très clair, mais en tout cas faisait beaucoup de négociations avec le Moyen-Orient. Il ressort et puis il fait des juteux contrats de gestion de fonds avec les Saoudiens. Donald Trump, je pense qu'on va rembobiner, on va se souvenir tout d'un coup de justement ces chaises éjectables. Fred, tu l'as dit, je pense que c'est très juste, parce que Donald Trump a aussi cette tendance à vouloir jouer les uns contre les autres. C'est ça aussi sa stratégie de management. Il va entretenir un peu les rivalités dans son équipe pour essayer de jouer les gens les uns contre les autres. Et voilà, je pense que, et donc si ça ressemble déjà à un panier de crabes au sein de la garde rapprochée de Donald Trump aujourd'hui, bah ça sera comme ça à la Maison Blanche aussi.
Ça nous promet une vaste une valse de ministres assez importante.
Comme ce fut le cas pendant 4 ans.
Et ben justement, il y a 4 ans, en 2016, on l'entend souvent, Donald Trump avait été plus ou moins cadré par le système, par les hauts fonctionnaires, ce que lui appelle l'État profond, hein, qui existe plus ou moins moyennement. Cette fois, ça va être différent. On nous dit qu'il est prêt et qu'il est prêt à faire absolument ce qu'il veut, Sébastien ?
Il veut en changer beaucoup. Il veut changer un paquet de hauts fonctionnaires dans toutes les administrations pour pouvoir mettre ça à sa main. Nous, on peut s'inquiéter aussi du fait qu'il n'y aura plus des Bill Barr, des John Kelly, des Mark Milley dans l'administration pour le tenir. Tous ces anciens secrétaires à la justice ou chefs d'état-major, etc. Des gens, certes conservateurs, mais qui sont tous, 4 ans après, revenus et qui ont toutes parlé de Trump comme d'un fasciste, ces gens-là ne seront plus dans l'administration Biden, dans l'administration Trump non plus. Donc peut-être qu'on va avoir affaire à un Trump encore plus sans filtre que celui de 2016-2020.
Bon, et sans parler du fait qu'il faut se rappeler, la Cour suprême a aussi dit que Donald Trump bénéficie d'une immunité présidentielle pour ses actes présidentiels. Et ça peut aller très loin. Les avocats même de Donald Trump, devant la Cour suprême, disaient qu'un président aurait le droit d'ordonner par les forces spéciales de l'armée ou que sais-je, l'exécution d'un ennemi politique ou d'un opposant politique. C'est quand même... ça. Donc c'est... Donald Trump si les républicains ont la majorité de la Chambre des représentants, ce qui paraît probable au moment où on l'enregistre, mais c'est pas tout à fait sûr, et parfois la Californie nous réserve des surprises. Ça s'est passé en 2018 à ce niveau-là, mais même si la majorité républicaine de la Chambre des représentants s'est révélé assez dysfonctionnel ces dernières années. Il n'empêche, Donald Trump aura les coudées assez franches pour gouverner.
Fred, un pouvoir unchecked, sans limite, c'est ça qui va arriver ?
Ben c'est, en tout cas, c'est le risque, évidemment, parce qu'il semble avoir presque la Sainte Trinité, la présidence, avec le vote populaire en plus, le Sénat, qui est quand même responsable de toutes les grosses nominations très importantes, et puis évidemment la Chambre. Je pense qu'à le moment où on se parle, on est à 8 sièges d'une majorité républicaine. Donc ça veut dire que s'il avait les trois morceaux, M. Trump, ben, il n'y a plus de chien de garde, il n'y a plus vraiment de garde-fou, et ça lui donne les coudées franches pour mettre en application, même s'il s'en est toujours caché, là, il essaie de prendre ses distances par rapport à l'agenda projet 2025, là, de la Heritage Foundation, mais il reste qu'il peut avoir absolument un chèque en blanc pour complètement bouleverser d'abord le code fiscal américain, mais aussi il peut faire une espèce d'épuration du fonctionnariat en fonction justement des gens qui penseraient comme lui ou qui seraient proches de la droite. Alors, est-ce qu'on peut mettre facilement en place ce genre de plan ? Ça reste à démontrer, mais il reste qu'effectivement, là, il a vraiment un chèque en blanc si en plus il remporte cette fameuse chambre, la Chambre des représentants.
Aura-t-on droit à un dictateur plus que le premier jour ?
Washington DC.
Vous le saurez au prochain épisode.
Exactement, on verra ça dans le prochain épisode. Ce sera dans 2 semaines. Salut tout le monde !
Salut !
Salut à tous.
Le podcast des médias francophones publics. Radio-Canada, Radio France, RTS, RFI, RTBF.